Vous écoutez, on lit pour vous.
Étrangère ou sourde, une frontière fine. Une chronique d'Aliénor Vinsot, parue le 15 avril 2025 dans Ombre et Lumière. L'amoureuse de mon cousin est tunisienne. Une jeune femme brillante, vive, souriante, qui parle un français impeccable, pas une once d'accent ne perce sa voix. Elle manie la grammaire avec aisance, utilise un vocabulaire parfois très soutenu, sans jamais hésiter. Mais le jour où je lance un enthousiaste « Je suis refaite », ses sourcils se froncent. Elle croit que je parle de chirurgie esthétique. Pour elle, ce genre d'expression, c'est du chinois. Ou plutôt, un français peu littéraire, celui qu'on n'apprend pas dans les manuels. À ce moment-là, je suis loin d'imaginer ce qui se passe en elle. Pour moi, c'est évident. Elle comprend tout. Je la vois souvent impassible, parfois un peu en retrait lors des conversations de groupe. Elle rit parfois avec un temps de retard. Elle quitte une soirée dans un bar bruyant plus tôt que les autres. Je mets ça sur le compte de la fatigue ou peut-être de la timidité. Trouver sa place dans une grande famille, avec une culture différente de la sienne, ce n'est sans doute pas simple. On l'invite à dîner, juste entre nous quatre. Je me dis qu'elle se sentira peut-être plus à l'aise dans ce cadre plus intime. Et là, elle lance, mi-amusée, mi-agacée, en parlant de mon cousin. Il fait exprès d'utiliser des expressions que je ne comprends pas. Je me tourne vers elle étonnée. « Comment ça ?» Elle m'explique alors que le français n'est pas sa langue maternelle, mais une langue qu'elle a apprise à l'école. On apprenait à dire « Brian » et dans la cuisine, tu vois ?» me dit-elle avec un petit sourire. Et son absence d'accent ? C'est inconscient, mais j'imite beaucoup à l'oreille. Une oreille musicale, donc. Et là, tout s'éclaire dans ma tête. Son regard en quête de sens, sa fatigue, ses silences, ce que j'avais pris pour de la réserve. Elle scrutait nos visages, à l'affût d'un indice, pour savoir si ce qu'on venait de dire était une blague, une référence culturelle ou simplement une de ces bizarreries de la langue française. Elle n'osait pas demander. Par peur de déranger? De paraître encore plus étrangère, je ne sais pas, mais immédiatement, j'ai pensé à ma propre expérience de personne sourde. Et dès que j'ai compris, je l'ai rassurée. Je l'ai sentie se détendre, se relâcher. Pendant le reste du repas, nous avons pris soin de lui expliquer les expressions les plus en vogue du moment. Elle n'est pas sourde, mais elle écoute comme quelqu'un qui entend mal. Elle tend l'oreille au-delà des mots, pour capter des nuances, comprendre les codes d'un monde dont elle ne possède pas toutes les clés. Tout comme moi, qui lis sur les lèvres, décrypte la communication non-verbale, observe les attitudes. Elle lit entre les lignes, analyse les tons et traque les sous-entendus. Sa barrière ne se trouve pas au niveau des sons, mais dans les couches invisibles de la langue. Les références implicites, les allusions culturelles, les évidences qui n'en sont pas pour elle. Et c'est là que je vois la ressemblance entre les personnes sourdes et celles qui parlent une langue étrangère. Ni les unes ni les autres n'ont un accès immédiat à un monde dont les codes leur échappent. Moi, je suis de l'autre côté de cette barrière, en terre inconnue. Mais en la regardant, j'ai eu l'impression de me voir comme dans un miroir. Et j'ai compris aussi comment les autres me perçoivent. Ce qu'ils peuvent deviner ou pas. Ce qu'ils ne peuvent pas savoir si je ne le dis pas. Ça me fatigue de demander à chaque fois ce que je ne comprends pas, m'a-t-elle confié. J'ai acquiescé en souriant. Moi aussi, je n'ai pas toujours l'énergie de signaler quand j'ai compris ou pas. Je n'ai pas envie d'être en permanence ramené à ma différence, aussi riche soit-elle. Et pourtant, j'ai remarqué que lorsque les gens comprennent ce qui me rend différente, ma surdité, invisible à cause ou grâce, c'est selon, de ma bonne diction et de ma compréhension orale, ils deviennent bien plus attentifs, plus bienveillants. À l'inverse de ceux qui ne savent pas, mais sentent que quelque chose cloche dans mon attitude, dans mes silences, mes réponses à côté, les malentendus, les vents que j'ai pu mettre malgré moi. Parfois, je me demande si je ne devrais pas porter une pancarte. Attention, personne sourde ici. Mais non. Je cherche encore le meilleur moyen de faire comprendre avec délicatesse et sans avoir à me justifier en permanence. C'était « Étrangère ou sourde, une frontière fine », une chronique d'Aliénor Vinsot, parue le 15 avril 2025 dans Ombre et Lumière.
Que prévoit le Parti libéral du Canada en environnement? Un texte d'Alexandre Shields et Alexis Riopel paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir. Le Devoir vous présente un tour d'horizon d'enjeux et de promesses du Parti libéral du Canada à surveiller en environnement. Il est temps de faire du Canada une superpuissance des énergies propres et traditionnelles, disait Mark Carney en campagne. Certes, le chef libéral parle d'énergie solaire, d'hydrogène vert et d'un réseau électrique transcanadien. Mais l'ancien apôtre de la finance climatique pense aussi qu'il est impératif d'assurer la compétitivité des énergies traditionnelles, c'est-à-dire du pétrole et du gaz. Oui, plus de pétrole afin de réduire nos importations, a-t-il lancé pour se défendre au débat des chefs du 17 avril 2025. Ce pétrole devra toutefois être bas carbone, a-t-il ajouté, cela grâce aux technologies, immatures et coûteuses, de captage et de stockage de carbone. Quant aux manières de transporter ces hydrocarbures, il a affirmé que le Canada devrait choisir quelques grands projets, pas nécessairement des pipelines, mais peut-être des pipelines, on verra, a-t-il dit entretenant une certaine ambiguïté. Le plafonnement des émissions du secteur pétro-gazier, une mesure phare de l'ère Trudeau, qui n'est pas encore finalisée, était absent du programme de M. Carney sans que celui-ci la renie pour autant. En ce qui a trait au renforcement de la réglementation sur les émissions de méthane, le chef libéral confirmait vouloir garder le cap fixé par son prédécesseur. Rappelons que le Canada est en voie de rater ses cibles climatiques. Selon une analyse récente de deux scientifiques de la Colombie-Britannique, les politiques libérales réduiront les émissions à 600 millions de tonnes d'équivalent CO2 par année en 2035, alors que le pays ambitionne d'arriver à environ 450 millions de tonnes en 2030. Des projets et des espèces menacées. Les libéraux comptent favoriser la réalisation de grands projets d'infrastructure et ont prédit déjà que certains d'entre eux pourraient avoir un impact sur des espèces menacées. Dans ce contexte, le gouvernement procédera à une réhabilitation proactive et atténuera les répercussions sur l'environnement et les espèces en péril dans les régions où nous nous attendons à ce qu'il y ait un développement d'infrastructures important au cours des 5 prochaines années. Si la mise en œuvre de cet engagement reste à préciser, la plateforme libérale cite en exemple les habitats et les environnements près des ports, des voies ferrées, des aéroports, des autoroutes, des sites de minéraux critiques, de l'infrastructure énergétique et plus. Au Québec, cela pourrait servir à l'octroi des dernières autorisations requises pour le projet de port industriel de Contrecœur, qui a été cité en exemple par Mark Carney durant la campagne. Celui-ci attend un feu vert fédéral parce que les promoteurs doivent détruire une partie de l'habitat essentiel du chevalier cuivré, une espèce en voie de disparition, ce qui est interdit par la loi sur les espèces en péril. Ce projet implique aussi l'abattage d'environ 20 000 arbres et la destruction de milieux humides qui servent d'habitat à des dizaines d'espèces fauniques, dont certaines sont menacées de disparition. Créer des parcs et promouvoir la nature. L'ancien ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a été un acteur très actif dans les négociations qui ont mené à la signature du premier accord mondial de protection de la biodiversité, l'accord Kunming-Montréal, signé en 2022. Les libéraux promettent de poursuivre les efforts en freinant et en inversant la perte de nature et de biodiversité au moyen d'efforts renforcés pour conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030. En plus des efforts à l'international, le gouvernement prévoit la création du Fonds canadien de protection de la nature qui doit servir à financer des projets pour restaurer les forêts anciennes, protéger les tourbières riches en carbone et revitaliser nos eaux côtières. Le Parti libéral a aussi pris l'engagement de créer au moins 10 nouveaux parcs nationaux et aires marines protégées, mais aussi 15 nouveaux parcs urbains et espaces verts dans les municipalités. Tout indique que l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent devrait donc se concrétiser comme prévu cette année. Tarification du carbone. Dès son assermentation au poste de premier ministre en mars 2025, Mark Carney avait éliminé la taxe carbone fédérale sur les combustibles qu'il jugeait trop divisive. La plupart des Canadiens paient désormais leur essence un peu moins cher, mais ne touchent plus la ristourne associée. Maintenant, le premier ministre promet d'améliorer la tarification industrielle du carbone qui cible les aciéries, les raffineries, les cimenteries, etc. Tous les détails de cette amélioration ne sont pas connus, mais on sait que M. Carney veut donner plus d'options aux grands pollueurs qui désirent compenser leurs émissions. Ceux-ci pourront financer des programmes de rabais pour des technologies vertes, véhicules électriques, thermopompes, destinés aux consommateurs. Selon une étude de l'Institut climatique du Canada, la tarification industrielle du carbone est l'outil le plus efficace pour abaisser les émissions du pays et générerait environ le tiers des réductions d'ici 2030. Mardi matin, cet organisme indépendant exhortait le gouvernement Mark Carney à renforcer l'instrument notamment en réduisant la surabondance de droits d'émission à la disposition des pollueurs. Le gouvernement libéral veut également développer un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. L'Europe se prépare à adopter un tel mécanisme qui impose une taxe sur les importations à forte empreinte carbone. Protéger l'eau douce. L'ombre menaçante de Donald Trump a plané sur toute la campagne et notamment en raison de sa convoitise des imposantes ressources en eau douce du gros robinet du Canada. Le président Trump veut les terres, l'eau et les ressources de notre pays, peut-on lire dans la plateforme libérale. Pour faire face à la menace, on promet d'élaborer une stratégie nationale sur la sécurité de l'eau et d'interdire l'inclusion de l'eau dans les accords commerciaux. Dans son discours, le Parti libéral répète d'ailleurs sa volonté d'assurer la souveraineté sur l'eau douce du Canada, qui possède près de 20 % des réserves d'eau douce de la planète. C'était « Que prévoit le Parti libéral du Canada en environnement ?» un texte d'Alexandre Shields et Alexis Riopel paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir.
De la grève du chocolat à celle du cellulaire, les étudiants protestent depuis longtemps et pour plusieurs raisons. Un texte de Martin Landry, paru le 9 mai 2025 dans le Journal de Montréal. Ces jours-ci, l'annonce du ministre Bernard Drainville d'interdire les cellulaires dans les écoles primaires et secondaires dès la prochaine rentrée crée de l'effervescence dans les couloirs des écoles du Québec. Les groupes de discussion s'enflamment, des pétitions circulent et certains parlent déjà de débrayer pour exprimer leur mécontentement. Une autre grève en vue? Peut-être. Faire la grève pour protester contre les règlements qui seront bientôt imposés sur le cellulaire à l'école, est-ce une idée nouvelle? Bien avant les manifestations monstres pour le climat de 2019, qui ont vu des milliers de jeunes envahir les rues de Montréal sous l'impulsion de l'activiste Greta Thunberg, l'histoire du Québec a été marquée par des mobilisations étudiantes qui se sont souvent soldées par des grèves et qui ont eu parfois des résonances politiques surprenantes. Une tradition ancrée. Remontons le temps au 19e siècle. En 1863, les écoliers du Petit Séminaire de Québec entament une grève du silence. Ils veulent dénoncer des notes jugées beaucoup trop faibles attribuées par leur enseignant d'anglais. Plus tard, en 1888-1889, des membres de la fanfare du Collège Sainte-Anne de la Pocatière débrayent parce qu'on leur refuse de parader pendant une grande fête. Cette résistance par la grève déborde souvent du cadre académique ou parascolaire et s'ancre dans des valeurs sociales, comme en 1913, à la veille du déclenchement de la Grande Guerre, quand des élèves de confession juive de l'Aberdeen School de Montréal quittent l'établissement pour protester contre des propos antisémites tenus par une institutrice. Environ 500 élèves se rassemblent au Carré Saint-Louis, à Montréal. La première mobilisation de masse d'élèves au Canada, quant à elle, s'inscrit dans l'histoire sous le nom de « la grève du chocolat ». Quand même charmant comme nom. En 1947, des milliers de jeunes refusent d'acheter des barres chocolatées après que le prix a bondi de 5 à 8 cents. Un mouvement de solidarité pan-canadien va transcender les salles de classe pour atteindre les parents et affecter les commerces de quartier pendant des mois. Explosion de mobilisation dans la foulée de la Révolution tranquille. La mobilisation étudiante prend de l'ampleur dans les années 60. Par exemple, en janvier 1966, une importante grève va toucher une soixantaine d'écoles au Québec. Entre 25 000 et 30 000 élèves protestent parce que le ministère de l'Éducation, Paul Gérard Lajoie, allonge le calendrier scolaire de 3 semaines. Le mouvement est tellement fort que le premier ministre du Québec, Jean Lesage, sort de ses gonds et invective les jeunes protestataires, leur lançant qu'ils manquent de maturité. Pourtant, leur message est structuré, démocratique et résonne fort. Parlant de mobilisation marquante, on ne peut pas passer sous silence la crise des écoles de Saint-Léonard en 1968. Crise qui prendra une dimension politique et se terminera par une première loi linguistique pour le Québec. Alors que la communauté italienne souhaite conserver ses écoles anglophones, les francophones s'y opposent farouchement. Pour signifier leur insatisfaction, des parents choisissent de garder leurs enfants à la maison. Le mécontentement amène les partisans des deux camps à manifester et des rassemblements provoquent des affrontements violents. Des milliers d'élèves iront même protester sur le terrain de l'Hôtel du Parlement de Québec pour défendre le français. N'oublions pas non plus les grèves de 1981, quand les élèves ont débrayé en réaction à la décision du gouvernement d'élever la note de passage, la faisant passer de 50 à 60%. En 1981, le ministre de l'Éducation, Camille Lorrain, impose un changement dans la note de passage. La règle soulève la colère de beaucoup d'élèves. Le mouvement de contestation se transforme rapidement en grève. Plusieurs dizaines de milliers d'élèves québécois vont refuser d'aller en classe. Ils forceront le ministre à négocier des accommodements. Des revendications multiples. Ce que l'histoire nous montre, c'est que les grèves étudiantes au Québec sont motivées par des causes variées, comme la défense de droits matériels, chauffage, transport, sorties scolaires, l'affirmation identitaire, langue, religion, la solidarité envers des camarades, ou même la participation à des mouvements planétaires, guerre, climat. Face à l'interdiction prochaine du cellulaire dans les écoles, les élèves réagiront-ils comme nous l'avons fait à leur âge? Manifesteront-ils pour défendre ce qu'ils considèrent comme un outil de communication et d'apprentissage essentiel? Exerceront-ils une influence sur le gouvernement Legault? Une chose est sûre, l'histoire des mobilisations étudiantes au Québec nous apprend que les jeunes n'ont jamais craint de faire entendre leur voix. C'était « De la grève du chocolat à celle du cellulaire, les étudiants protestent depuis longtemps et pour plusieurs raisons », un texte de Martin Landry, paru le 9 mai 2025 dans le Journal de Montréal.
La Journée de la visibilité lesbienne célèbre le sport féminin et inclusif. Un texte de Ruby Pratka, paru le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue. Les bagarres sur la glace sont encore peu fréquentes dans le hockey professionnel féminin, mais cela ne veut pas dire que les joueuses ne sont pas débattantes, loin de là. Les femmes athlètes, particulièrement celles qui sortent de la norme, qui vivent avec une incapacité ou qui font partie de la communauté LGBTQ+, doivent se battre pour être reconnues en tant qu'athlètes, en plus de se battre pour être les meilleures dans leur discipline. Lors des célébrations de la Journée de visibilité lesbienne, JVL, organisée par le Réseau des lesbiennes du Québec, RLQ, le 26 avril dernier au 8 Queen dans Griffintown, le sport féminin était à l'honneur. Avec la thématique sportive, les organisatrices visaient à la fois à honorer des pionnières, à souligner l'essor récent du sport professionnel féminin, à faire bouger les participantes dans un environnement accueillant et inclusif et à donner une occasion de visibilité et de recrutement aux clubs sportifs queer positifs de la métropole. Plusieurs centaines de personnes ont pris part aux activités de la journée. La planchiste olympique Annie Guglia et la marathonienne et boxeuse en fauteuil roulant Jenny Barré ont raconté leur parcours coloré lors du panel d'ouverture animé par Anne-Sara Charbonneau et Florence Nadeau dans le cadre du balado « Pas peu fière ». C'est déjà difficile d'être une femme dans le sport, et je ne voulais pas être une stéréotype, relate Annie Guglia, 34 ans, qui a commencé à s'afficher comme lesbienne à la mi-vingtaine. Mais c'est difficile d'être ce que tu ne peux pas voir. Être la plus visible possible, ça aide tout le monde. Jenny Barré, 45 ans, est atteinte de la maladie des os de verre et a subi plus de 150 fractures dans sa jeunesse. Elle a raconté avoir commencé le sport pour se bâtir une couche de muscles autour de ses os fragiles. 15 ans plus tard, elle fait des combats de boxe en fauteuil roulant et détient le record Guinness pour le marathon le plus rapide par une femme en fauteuil roulant régulier. Elle se fait une fierté d'être visible, à la fois en tant qu'athlète, utilisatrice de fauteuil roulant et lesbienne. « Je fais beaucoup d'entrevues et chaque fois que j'en fais, je montre mes couleurs », affirme la résidente de Saint-Hyacinthe, arborant fièrement des bandeaux arc-en-ciel autour des poignets. La RLQ a présenté des prix à Jenny Barré et à la hockeyeuse olympique Charline Labonté pour l'ensemble de leur œuvre. Dans un message vidéo, Charline Labonté, l'ancienne gardienne de but d'Équipe Canada, a raconté avoir décidé de faire sa sortie du placard après son retour des Jeux olympiques de Sotchi, en Russie, où des lois strictes sur la propagande limitent la visibilité des vies LGBTQ+. Gagner la médaille d'or, ça vient avec une certaine plateforme, et je me suis dit que même si ça aide une ou deux personnes, ça va valoir la peine. L'experte en marketing sportif et fondatrice de Collective Pivot, Katia Aubin, a présenté ses recherches sur le potentiel économique du sport professionnel féminin. Selon elle, les années 2023-2025 sont des années pivots dans le monde du sport féminin professionnel au Canada, avec l'essor de la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF, et la Super Ligue du Nord, SLN, du soccer, ainsi que l'arrivée du Tempo de Toronto dans le WNBA. Les femmes et les personnes LGBTQ+, n'ont jamais été une cible du marketing sportif, mais il y a du potentiel, observe-t-elle. Si des marques ne parlent pas à nous, c'est une occasion manquée. En fin d'après-midi, des billets pour des matchs de la Victoire de Montréal de la LPHF et des Roses de la SLN ont été tirés au sort et des participantes ont pu assister à des ateliers sur la mise en forme et la santé et sur la nutrition dans le sport, ou encore découvrir des équipes et des clubs locaux de course, de bateaux dragons, de soccer, de roller derby, de softball ou de boxe. Cynthia Esserich, directrice du RLQ, estime que l'événement a atteint ses buts. « Je pense que ça faisait une bonne balance d'apprendre des choses sur la vie de certaines personnes, d'avoir des modèles qui font du sport, mais aussi d'avoir des données un petit peu plus concrètes sur comment l'inclusion se fait du côté marketing. » C'était vraiment important pour nous de sensibiliser les populations à la présence de personnes lesbiennes dans le sport. Mais aussi, il y a des femmes hétéros qui font du sport et qui sont étiquetées lesbiennes parce qu'elles sont sportives, puis c'est vu comme quelque chose de négatif. C'est un peu ça qu'on veut enlever, mentionne-t-elle. L'objectif de la journée est de créer des modèles positifs, puis de créer des espaces où la communauté peut se célébrer entre elles. À la découverte du sport inclusif. Découvrez des clubs sportifs queer positifs qui ont participé à la JVL en consultant le site web du Réseau des lesbiennes du Québec à l'adresse rlq-qln.ca. C'était « La journée de la visibilité lesbienne célèbre le sport féminin et inclusif ». Un texte de Ruby Pratka, paru le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue.